Vous écoutez France Culture, il est 7h et le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Il était l'un des réalisateurs français les plus prolifiques, les plus anarchistes aussi. Jean-Pierre Mocky est donc mort à l'âge de 86 ans hier. Et nous reviendrons sur sa carrière de comédien et de cinéaste dans un instant.
Nous irons ensuite en Italie où le ministre Matteo Salvini demande des élections anticipées. Le leader d'extrême droite ne veut plus travailler avec les populistes du mouvement 5 étoiles alors qu'il est au plus haut de son côté dans les sondages en ce moment.
À Hiroshima puis Nagasaki, c'était il y a 74 ans jour pour jour. Que reste-t-il de la mémoire japonaise sur ces bombes atomiques? Nous le demanderons à notre correspondant à Tokyo.
Et puis reportage dans les Alpes-Maritimes dans ce journal. Les Alpes-Maritimes, nous irons dans la vallée de la Roya où Cédric Héroux s'associe à Emmaüs. Le militant crée la première communauté 100% agricole avec des migrants et des sans-abri.
Ce que j'aimais le plus chez lui, c'était sa liberté. Ce sont les mots de la fille de Jean-Pierre Mocky après le décès du cinéaste hier à 86 ans. Il a donné sa vie au cinéma français avec une soixantaine de films en 58 ans de carrière, dirigeant Jean Poiret, Michel Serrault, Philippe Noiret ou Catherine Deneuve. On retiendra entre autres un drôle de paroissien, Les saisons du plaisir à Mort l'arbitre. Jean-Pierre Mocky avait un fort caractère, son fort caractère. Connu pour ses coups d'éclat, c'était Ilan Malka et sa fille a raison, l'anarchiste du cinéma français.
Libertaire, caustique, provocateur, voici les mots qui peuvent définir le cinéma de Jean-Pierre Mocky. Dès ses premiers films apparaît son sens du burlesque, sa capacité à tirer le meilleur de ses comédiens et à imaginer des intrigues délirantes. Dans Un drôle de paroissien en 1963, Bourville et Jean Poiret incarnent deux escrocs qui gagnent leur vie en pillant les troncs des églises.
Je pense qu'il serait temps de passer du stade de l'artisanat à celui de la grosse industrie.
Tu veux dire que nous devrions augmenter notre rendement?
Ah oui.
Nombre de ses films sont des comédies parfois grivoises, comme Les saisons du plaisir en 1988. Il a également adapté Frédéric Dard avec Le mari de Léon. Certains films sont très noirs, engagés. Dans Un linceul n'a pas de poche en 1974, Jean-Pierre Mocky incarne lui-même un journaliste qui s'oppose aux notables de sa ville, au péril de sa vie. Le voici face à Jean-Pierre Marielle.
L'Assemblée nationale a en vous un merveilleux orateur. Vous avez retourné la majorité lors du débat sur l'avortement. Très bien votre discours. Le respect de la vie. La vie est un don
oui,
de Dieu.
Oui, et nul autre que le Créateur n'a le droit d'en disposer. Oui, oui.
Vous avez trois mortes sur la conscience. Trois filles avortées en vitesse sur un coin de table.
À partir de la fin des années 90, Jean-Pierre Mocky a du mal à faire distribuer ses films. Il les diffuse principalement dans les salles de cinéma qu'il gère lui-même, à Paris, Le Brady, puis Le Desperado. Jusqu'à la fin de sa vie, il aura continué à tourner avec la même passion et la même liberté.
Merci Ilan Malka, Jean-Pierre Mocky avait 86 ans. Hommage sur France Culture ce matin dans les journaux et puis à partir de 8h30 avec nos invités. Jean-Pierre Mocky et sa carrière, c'est à retrouver également sur notre site avec la réécoute notamment de À Voix Nue sur franceculture.fr. Un hommage aussi aujourd'hui dans le Var à Signes. Les obsèques du maire de la commune auront lieu ce matin. Hier, près de 400 personnes se sont déjà rassemblées après la mort de Jean-Michel décédé, après avoir essayé d'empêcher une décharge sauvage de gravats. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette demande du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, homme fort du gouvernement, demande des élections anticipées le plus rapidement possible, dit-il. L'incertitude durait depuis plusieurs semaines déjà. La coalition entre la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini et le mouvement populiste des 5 étoiles pourrait éclater après 13 mois de pouvoir. C'est le Premier ministre Giuseppe Conte qui l'a annoncé hier, ne cachant pas son agacement vis-à-vis de Matteo Salvini, Marie Duhamel.
Cette crise initiée par ses soins sera la plus transparente de l'histoire. Le président du Conseil exige de son ministre de l'Intérieur qu'il endosse sa veste de sénateur et se justifie face aux parlementaires. Car hier, Matteo Salvini a suspendu sa tournée des plages et les selfies pour venir lui annoncer qu'il réclamait des élections anticipées à Rome. Il ne s'agit pas, a expliqué le chef de la Ligue, d'avoir plus de ministères, mais d'aller de l'avant sans être constamment bloqué par des querelles. Mercredi encore, le mouvement 5 étoiles, majoritaire au Parlement, avait réaffirmé son opposition opposition en vain au projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, défendu par la Ligue. Les sujets de désaccord au sein de la coalition sont nombreux. Ils portent sur les projets d'infrastructure, mais également sur les politiques fiscales, énergétiques ou les rapports avec Bruxelles. Le mouvement 5 étoiles en convient, semble dérouté. Alors que son chef Luigi Di Maio parlait d'une journée de travail normale, celui-ci a finalement pris acte sur Facebook hier soir, conditionnant, semble-t-il, la fin du gouvernement à une dernière réforme prévue pour septembre sur une réduction massive du nombre de parlementaires. L'obtiendra-t-il seulement ? Matteo Salvini domine aujourd'hui la scène politique. Il est crédité de 38% des intentions de vote en cas d'élection, souhaite sans doute en profiter. La presse italienne mise désormais sur la date du prochain scrutin.
C'était Marie Duhamel depuis Rome. Donald Trump accuse Emmanuel Macron d'adresser des signaux contradictoires à l'Iran sur l'ouverture possible d'un dialogue. Dans une série de tweets, le président américain a sèchement recadré son homologue français hier, lui reprochant de tenter de parler à la place des États-Unis. Il n'apprécie visiblement pas que Paris se pose en médiateur dans le dossier du nucléaire iranien.
Il est 7h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le 9 août 1945, une deuxième bombe atomique explosait à Nagasaki au Japon, 3 jours après la première, celle d'Hiroshima.
Oui, et le 9 août 2019, 74 ans après, le Japon se souvient, tente de se souvenir en tout cas. Le maire d'Hiroshima demande ainsi à ce que son pays signe le traité de l'ONU sur l'interdiction de l'arme atomique et à ce que les habitants luttent contre l'oubli, Frédéric Charles.
Le maire d'Hiroshima sait que la mémoire du bombardement atomique s'efface, même dans sa ville, au fil de la disparition des rares survivants. Lors d'une cérémonie devant le mausolée du Parc de la Paix en présence du Premier ministre Shinzo Abe, le maire Kazumi Matsui a rappelé au chef du gouvernement japonais que le premier pays atomisé du monde n'a toujours pas signé le premier traité d'interdiction des armes nucléaires conclu par l'ONU et Kazumi Matsui a appelé Shinzo Abe à le faire. L'érosion de la mémoire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki 3 jours plus tard par un avion américain est un atout pour le Premier ministre Shinzo Abe. Lui cherche à réviser la constitution pacifiste et à intégrer davantage l'armée japonaise dans la stratégie américaine. Le Japon dépend du parapluie nucléaire américain pour sa sécurité. Il abrite les plus grandes bases américaines en dehors des États-Unis. Malgré Hiroshima et l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon maintient une capacité nucléaire pour se doter, le cas échéant, de l'arme atomique.
La gestion des terres, la production agricole et l'alimentation doivent changer en profondeur pour réduire le réchauffement climatique. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié son rapport hier. Sans ces changements, dit-il, la sécurité alimentaire, la santé et la biodiversité seront menacées. Voilà ce que dit l'ONU. Il vient de créer la première communauté 100% agricole soutenue par Emmaüs. Revoilà Cédric Héroux, agriculteur et militant dans la vallée de la Roya, connu pour avoir accueilli des demandeurs d'asile chez lui dans les Alpes-Maritimes. Ils sont 5 pour le moment à travailler la terre, des réfugiés, des sans domicile fixe ou des personnes tout simplement intéressées par l'agriculture biologique et paysanne. Cette activité les aide à se reconstruire, comme l'a constaté Marion Chantreau. Voici son reportage.
La communauté est installée à flanc de colline, quelques cabanes en bois et caravanes au milieu des oliviers, le chant des cigales et les poules en fond sonore. La vallée a cristallisé les passions autour de l'arrivée massive de migrants il y a encore 2 ans. Il n'y a presque plus de passage aujourd'hui. Mais dans sa ferme, l'agriculteur Cédric Héroux n'est pas seul.
On a Jaff qui est à la maison depuis 4 mois, nigérian. Jason avec le t-shirt jaune qui récolte le basilic. Jason donc il est sénégalais et on a Johannes qui vient d'Érythrée qui est arrivé pour la première fois en 2016 chez moi. Il est repassé par la maison l'année dernière, s'est occupé de ses papiers, maintenant il a le statut de réfugié.
Cédric Héroux a demandé à Emmaüs de les soutenir. Le mouvement fondé par l'abbé Pierre s'est reconnu dans les valeurs de cette communauté et a tout de suite accepté.
Donc là sur notre gauche on a des plantations de... On pensait que c'était des poivrons, en fait c'est du piment. Et là juste derrière on a des tomates, on a des aubergines aussi, des courges. Et il y a Charlotte qui ramasse le basilic pour faire des bouquets pour la livraison de demain.
Ça fait 3 semaines qu'on est dans les récoltes.
Charlotte est bénévole sur les terres de Cédric depuis 8 mois.
Une communauté comme ça où on autoproduit nos légumes, on fait de l'autoconstruction pour les habitations, pour les espaces de vie. Enfin, c'est hyper riche. Et autour de nos pratiques de vie et de travail, on échange et on parle de la vie d'avant.
La vie d'avant pour Jaff, nigérian de 37 ans, arrivé fin avril à Breil-sur-Roya, c'est la traversée du Niger, de la Libye, 2 ans passés au nord de l'Italie en attendant des nouvelles de sa demande d'asile.
What do you do? Qu'est-ce que vous faites?
On pratique l'agriculture. Je m'occupe là des tomates, des piments. C'est très intéressant. J'ai envie d'apprendre et d'aller de l'avant. Tout le monde ici est très gentil et bienveillant.
Vivre du maraîchage, c'est le défi que s'est fixé la communauté. Elle aimerait pouvoir prochainement faire de la vente directe et de la transformation de produits.
C'était Marion Chantreau de France Bleu Azur pour France Culture. Une perturbation pluvieuse et orageuse va traverser le pays. D'abord ce matin sur le quart nord-est de la Lorraine jusqu'au Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France. Elle touchera dans l'après-midi la région Auvergne-Rhône-Alpes, le centre et les Pyrénées. Le sud-est va rester sec et ensoleillé. Comptez ce matin 22 degrés à Nantes et Lille, 24 à Paris, 26 degrés à Bordeaux, 28 à Périgueux, à Lyon et à Marseille.